Bonjour, je m'appelle Marielle et j'ai le plaisir de vous accueillir sur Compresse et Sparadrap, le podcast qui donne la parole aux soignants. Ici, on parle de vocation, d'expérience, de déception, de choix de carrière, mais aussi de remise en question et de moments de bonheur. L'idée, vous faire découvrir ces métiers de l'ombre, l'envers du décor du milieu hospitalier, par le biais de partage d'expériences et d'interviews sans tabou. Aujourd'hui, je donne la parole à Clémentine. C'est alors qu'elle était encore toute jeune infirmière qu'elle a décidé presque sur un coup de tête de poser ses valises au Québec. Entre déboires administratifs, subtilités culturelles et soif de découvrir, elle s'est confiée sur cette expérience très riche à mon micro. Bonne écoute. Bonjour Clémentine.
Bonjour.
Je suis ravie de t'avoir à mon micro aujourd'hui. Je suis un peu navrée qu'on doive faire ça à distance parce que je crois qu'on n'est pas très éloignées physiquement actuellement l'une de l'autre.
Ouais.
Mais voilà, Covid oblige, je crois qu'on peut vraiment pas espérer mieux pour le moment. Comment tu vas ?
Ça va très bien, ça va très bien.
Bah, génial, je te laisse te présenter pour démarrer la conversation.
Alors, je m'appelle Clémentine, j'ai 24 ans, je suis infirmière depuis 2017, après 3 ans d'études à Lyon. Et puis, j'ai travaillé après mon diplôme un an à Annecy dans une clinique, 4 petits mois sur l'île de la Réunion, puis presque 2 ans au Québec. Et là, ça fait tout juste un mois que je suis revenue sur Annecy.
Revenue en plein hiver, en plus.
Pour pas être trop déstabilisée par rapport à Montréal.
Ouais, c'est ça, exactement. Un retour en douceur. Bon, si je t'ai invitée à participer au podcast aujourd'hui, c'est justement pour que tu puisses nous parler de ton expérience outre-Atlantique, parce que je pense qu'il y a plein de choses qui sont différentes et beaucoup de personnes sont curieuses de savoir comment ça se déroule, comment on exerce le métier d'infirmier de l'autre côté. Et avant tout ça, est-ce que tu peux me dire quel métier toi tu voulais faire quand tu étais petite ?
Oui, alors j'ai toujours eu l'envie de faire infirmière. Après, je m'étais aussi renseignée du côté de l'événementiel et du côté du sport aussi, c'était des domaines qui m'intéressaient. Mais j'ai fait mon stage de 3e en entreprise dans une clinique avec des infirmières et ça m'avait bien plu, donc voilà, je me suis lancée dans ces études.
Ok, bon alors du coup un diplôme qui n'a pas été obtenu il y a des dizaines et des dizaines d'années en arrière, c'est une pratique encore assez récente. Et qu'est-ce qui t'a donné envie voilà, de partir exercer à l'étranger ? Ou qu'est-ce qui a obligé ce déménagement ?
J'ai toujours eu envie d'aller travailler à l'étranger. J'aime beaucoup voyager et puis j'avais fait un stage à l'étranger donc au Cambodge qui m'avait énormément plu et ma meilleure amie quand j'étais en première durant ma première année en tant qu'infirmière m'a dit qu'elle partait faire un an d'études à Montréal et en fait c'est là que je me suis motivée et je me suis dit allez je vais la rejoindre et on va faire ça ensemble. Mais j'avais vraiment aucune idée de à quoi m'attendre en tant qu'infirmière au Québec. J'ai fait ça un peu comme ça sur le tas, mais ouais, je savais vraiment pas à quoi m'attendre.
C'est génial.
Ouais, c'est cool.
J'ai entendu dire, mais je sais pas si c'est vrai, si c'est une rumeur, que les déménagements, alors je sais pas si c'est au Québec ou si c'est au Canada en général, se faisaient sur un jour précis, comme si un bail de location démarrait à un jour bien précis. Est-ce que c'est une rumeur ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de réel?
Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de contrats de location qui se font le 1er juillet. Je ne sais pas exactement pourquoi. Je sais que c'est la fête nationale au Canada, le 1er juillet. Donc, juste peut-être parce que c'est un jour férié et que ça arrange les gens. Donc oui, c'est vrai qu'à ce 1er juillet, il y a énormément de gens qui déménagent. Mais après, on peut aussi avoir des contrats de location qui commencent à d'autres jours de l'année.
On va commencer par un chapitre qui n'est pas forcément passionnant, mais je pense que tout le monde doit passer par là. C'est le côté un peu administratif des choses. Donc, quand toi, tu es partie là-bas, comment ça s'est passé au niveau des papiers, des documents à fournir ?
Alors, y a vraiment énormément de visas qui permettent d'aller travailler au Québec. J'en connais quelques-uns que je peux citer, mais que j'ai pas moi utilisé. Il y a le PVT, le permis vacances-travail. Celui-ci, il est donné par l'État français pour des jeunes de moins de 30 ans. Et en fait, il permet de partir au Canada sans avoir de job au préalable. Donc, il permet d'aller là-bas, de rester 2 ans et de trouver un job sur place ou même juste de se balader. Il y a le VIE aussi, qui est un volontariat international échange, il me semble. Ça veut dire ça. Celui-là, c'est pour les jeunes de moins de 28 ans. Et celui-là, c'est un contrat entre le pays et l'État français. Mais ça concerne plutôt les professions dans l'ingénierie et le commerce. Donc, pour les infirmières, il y a peu de VIE proposés. Puis moi, j'ai eu un permis de travail temporaire. Donc là, je me suis fait recruter par la RSQ, c'est Recrutement Santé Québec. C'est un peu le pôle emploi du Canada, enfin du Québec, mais dans le domaine de la santé. Et donc là, c'est un processus qui est quand même assez long. Faut pas être pressé.
Donc t'es partie au Québec en ayant déjà fait des recherches d'emploi, voilà, en ayant déjà une idée de l'endroit où tu voulais travailler. Voilà, t'avais déjà démarré les démarches avant d'avoir posé un pied au Québec.
Bah alors en fait, pour avoir ce visa-là, il faut s'inscrire sur le site Recrutement Santé Québec. Ensuite, ils présélectionnent les candidats selon les CV, selon les CV qui les intéressent, sachant qu'il faut un minimum de 500 heures de travail en tant qu'infirmière. Donc, en fait, ça équivaut à 3-4 mois d'expérience, donc même les jeunes diplômés peuvent le faire. Ils nous présélectionnent, ils vont nous donner une date d'entretien. C'est soit à Paris, soit à Lyon, soit à l'île de la Réunion, mais ils se déplacent pas vraiment et c'est une seule fois par an. Et donc moi j'ai été convoquée à Paris, j'ai passé mon entretien et puis en fait à la fin de l'entretien ils nous disent directement si on est sélectionné ou pas. Et là ils vont nous proposer une liste d'hôpitaux qui a des besoins d'infirmières. Et on va leur dire, nous, on aimerait aller, et puis voilà, on va s'accorder, et puis directement après signer un contrat.
Ok, ah ouais, donc super bien organisé, quoi.
C'est super bien organisé.
Ils ont déjà un peu leur plateforme.
Ouais. Ben, en fait, ils ont besoin d'énormément d'infirmières au Québec, et puis il y a un arrangement entre la France et le Québec depuis, je crois, une quinzaine d'années, qui permet de faciliter les démarches, et qui permet de reconnaître notre diplôme au Québec. Ce n'est pas le cas, par exemple, pour les kinés. Je sais que les kinés, s'ils veulent aller travailler au Québec, ils doivent refaire une équivalence d'au moins 2 ans. Alors que nous, après, on a un petit stage à faire de remise à niveau, mais c'est 3-4 mois, quoi. Donc, c'est beaucoup plus simple.
Ce n'est pas quelque chose de diplômant ou ce n'est pas une formation supplémentaire. C'est juste un stage quand tu arrives sur place pour faire un peu le point sur ce qui se fait là-bas, qui est un peu différent de la France.
Non, c'est pas diplômant, mais c'est quand même, il faut quand même être compétent, on va dire entre guillemets. Et même pour l'entretien, d'ailleurs, c'est des questions sur des cas cliniques. Ils cherchent quand même à voir, comment on réfléchit en tant qu'infirmière, tout ça. Et après, une fois sur place, c'est un stage de 75 jours, il me semble. Au début, on a 10 jours de théorie. Parce que, en fait, il y a quand même énormément de différences entre la pratique française et la pratique québécoise. Donc, dans ces 10 jours de théorie, on a des petites formations sur comment utiliser leur logiciel, comment utiliser les pompes, comment utiliser leur appareil à glycémie. Et puis aussi, on a une liste de vocabulaire québécois qu'on doit apprendre et connaître, d'abréviations médicales, parce que franchement, pour moi, ça a été presque ça le plus dur, la différence entre nos deux langues.
À ce point-là, ouais, ça qui a été déstabilisant.
Même dans l'autre sens, au début, des fois, on me faisait répéter tout ça. Pourtant, on parle français, mais il y a quand même énormément de différences. Et les abréviations médicales aussi sont super différentes.
Est-ce que, au niveau étymologie, ça se base davantage sur des mots d'origine anglaise, ou est-ce qu'ils fonctionnent davantage avec des...
Ils ont quelques mots tirés de l'anglais, mais je dirais que non, principalement, c'est quand même...
Même pas.
Non, ouais.
C'est marrant qu'ils intègrent ça dans le processus de formation, c'est rigolo quand même.
En fait, il y a que des dossiers papier. Là, dans l'hôpital où j'étais, il n'y a pas d'ordinateur. Et donc, en fait, nous, les infirmières, on doit recopier les prescriptions que les médecins écrivent, tout ça. Donc, en fait, il y a tout un lexique d'abréviations à apprendre et à connaître pour, en fait, savoir déchiffrer ce que les médecins nous ont prescrit pour nos patients, quoi.
Ah oui, donc c'est vraiment c'est nécessaire, quoi.
C'est vraiment nécessaire, vraiment nécessaire.
C'est marrant de se dire qu'il faut passer par l'adaptation au langage, alors que, comme tu dis, on parle la même langue à la base, quoi. C'est surprenant. Au niveau des soins prodigués par une infirmière en France et au Québec, est-ce qu'il y a des soins, par exemple, que tu n'avais pas le droit de faire en France, que tu as eu le droit de faire là-bas, ou inversement ?
Alors, au niveau des soins techniques, je pouvais ausculter là-bas au niveau pulmonaire et gastrique. Donc, quand on arrive aussi, justement, dans les 10 jours de théorie et après dans les 30 premiers jours où on est doublé, là, j'avais appris à ausculter. Mais sinon, après, au niveau des soins techniques, ça reste sensiblement la même chose.
Est-ce qu'au niveau de l'équipe médicale, paramédicale, est-ce qu'on retrouve les mêmes métiers que ce qu'on peut voir dans une équipe pluridisciplinaire en France? Je pense aux aides-soignants, aux kinés, aux psychologues, tout ça.
Sensiblement, oui. Mais par exemple, rien que pour une infirmière, il y a trois ou même quatre types d'infirmières différentes. Donc ça change beaucoup comparé en France. Il y a l'infirmière auxiliaire, donc cette infirmière-là, elle va pas pouvoir faire d'évaluation clinique, elle va pas pouvoir injecter d'intraveineux, et elle va travailler en collaboration avec l'infirmière clinicienne. Donc ça, c'est comme nous, infirmières classiques en France. Puis après, il y a aussi une infirmière praticienne spécialisée qui, elle, va pouvoir prescrire. En fait, ça va vraiment être le bras droit du médecin. Elle s'est spécialisée dans un domaine, et elle va pouvoir prescrire, prendre en charge un patient de A à Z en autonomie. Je pense que d'ailleurs, ça va peut-être arriver en France dans quelques années.
Oui, on en entend parler en tout cas, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est surprenant pour nous, puisque le droit de prescription en France, il est pas du tout possible pour les infirmiers, mais on en parle en tout cas, c'est vrai. Donc chez eux, ça existe.
Ouais, ça existe. Après, je sais qu'elle a moins de patients à charge que les médecins ou les internes, mais elle est autonome, elle fait ses prescriptions, elle prend en charge le patient.
Oui, donc plusieurs stades, plusieurs responsabilités en fonction du poste d'infirmier que tu occupes à ce moment-là. Donc toi, infirmière clinicienne, du coup, pour ce que tu faisais.
Oui, c'est ça. Nous, en tant qu'infirmière française, on accède directement au stade d'infirmière clinicienne. Après, il y a aussi les préposés aux bénéficiaires. On les appelle comme ça, c'est comme les aides-soignants en France. Il y a aussi un soignant qui n'existe pas en France, c'est les inhalothérapeutes. Elles sont spécialisées dans le système respiratoire et c'est elles qui vont, par exemple, donner les aérosols, assister le médecin quand il va intuber, installer les CPAP, les BIPAP. En fait, nous, en tant qu'infirmière, ça, on n'a pas le droit de s'en occuper. Et on a le devoir d'appeler l'inhalothérapeute. C'est elle qui va aussi régler les respirateurs en réanimation. Nous, en tant qu'infirmière, on n'a pas vraiment le droit de s'en occuper. C'est l'inhalothérapeute qui s'en occupe.
Ah oui, dédié aux voies respiratoires et que vous appelez, du coup, pour toutes ces questions-là.
Exactement, ouais. Quand on m'a dit que je ne pouvais pas donner mes aérosols à mes patients, ça m'a fait bizarre.
Oui, qui est un soin, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas du milieu médical, qui est un soin que nous, on fait en France tous les jours. Oui, c'est fou de se dire que là-bas, tu peux pas le faire, tu dois faire appel à ces personnes-là, c'est marrant. Au niveau de l'organisation des journées de travail, est-ce que ça s'organise à peu près pareil, des journées soit en 12 heures, soit en 8 heures, avec peut-être un système de garde, ou est-ce que c'était très différent de ce que tu avais connu en France?
Alors là-bas, dans l'hôpital où j'étais, c'était plutôt des quarts de 8 heures, donc 8 heures, 16 heures, 16 heures, minuit, minuit, 8 heures. Ça roulait beaucoup comme ça, sachant que le quart de jour, donc 8 heures, 16 heures, était très difficile à avoir pour les nouvelles arrivées. Donc c'est souvent un quart réservé aux plus anciennes, enfin, les filles qui ont plus d'expérience. Donc voilà, moi j'étais beaucoup quart de soir, quart de nuit dans mon premier service, parce que dans mon premier service j'étais en chirurgie hépato-biliaire. Après j'ai fait un an de réanimation et là en réa on avait des 12 heures. Donc c'était cool, je faisais un mois de jour, un mois de nuit.
Oui, ils essayent de peut-être garder l'horaire le plus intéressant entre guillemets pour les personnes qui sont installées là depuis un moment, c'est ça?
Ouais, en tout cas dans l'hôpital où j'étais ça marchait un peu comme ça à l'ancienneté. Pour les vacances aussi ça marche à l'ancienneté. Ouais, ça marche beaucoup comme ça là où j'étais.
C'est un peu injuste, mais bon, faut faire avec.
Ouais, les horaires étaient plus difficiles qu'en France. Puis le temps plein aussi est un 40 heures. On a 2 semaines de vacances. Enfin voilà.
Ah, 2 semaines de vacances.
Ouais. Si on est, parce que oui aussi, il y a ça qui est différent. En fait, eux, ils fonctionnent en quinzaine, donc ça veut dire que tous les 15 jours, on va avoir notre salaire. Et donc notre planning est fait par quinzaine. Et en fait, on peut choisir si on veut travailler 8 jours sur 15, 9 jours sur 15 ou 10 jours sur 15. 10 jours sur 15, c'est le temps plein. Donc en 8 heures, 10 jours sur 15. Et moi, j'avais choisi de faire du 8 jours sur 15 avec des temps supplémentaires possibles. Et en 8 quinzaine, on n'a que 2 semaines de vacances, ouais. Donc ça fait pas beaucoup.
D'après ce que j'ai compris, voilà, t'étais un petit peu déstabilisée au niveau du langage, du choix des mots, etc. Est-ce qu'il y a une autre subtilité dans ta pratique qui t'a complètement déstabilisée quand t'es arrivée pour exercer au Québec?
Oui, c'était le fait qu'il n'y ait pas d'ordinateur, pas de système, pas de dossier médical informatisé. En fait, on faisait tout sous format papier. Donc, ça veut dire que le médecin, s'il voulait nous prescrire quelque chose, il prenait le dossier du patient, Il écrivait sa prescription, nous on devait récupérer la feuille, la faxer à la pharmacie, et nous on devait encore le recopier sur ce FEM en attendant que la pharmacie l'ait noté. Enfin, c'était tout un travail en plus administratif qui prend énormément de temps. Donc oui, on avait moins de patients à charge que l'on a en France. Par contre, l'administratif prenait beaucoup de temps. Et moi, je trouvais ça un peu dommage parce qu'au final, on aurait pu largement avoir plus de patients et moins de travail papier si on avait eu des ordinateurs.
Ouais, donc en plus du fait que ça soit archaïque et ouais, puis vraiment pas à la page, il y a aussi un énorme risque d'erreur, j'imagine, à chaque fois de recopier les choses comme ça.
Oui, d'autant plus qu'on a le droit là-bas de prendre les ordonnances orales. Donc en fait, le médecin pouvait nous dire au téléphone, tu vas donner ça à ce patient, et c'était à nous de le noter et de le faxer à la pharmacie, et après de l'administrer. Donc c'est pour ça que aussi je t'ai parlé avant de la différence entre nos deux façons de parler, de s'exprimer, parce que moi au début j'avais vraiment toujours peur de mal comprendre entre 0,5 et 5 mg et de faire des erreurs. Donc heureusement en fait quand on faxe à la pharmacie, il y a un pharmacien qui est toujours là pour vérifier et valider ou non la prescription. Mais des fois, quand c'est urgent ou quoi, des fois, on n'a pas le temps d'attendre que la pharmacie ait validé ce que le médecin a écrit ou alors l'ordonnance orale qu'on a prise. Moi, je trouve pas que ce soit le plus sécuritaire comme système.
Non, c'est pas confort. Et puis, c'est vrai que nous, en France, on se bat justement contre ces prescriptions orales qui sont catastrophiques, parce que le risque d'erreur, de mauvaise compréhension, comme tu dis, du dosage, parfois entre 5 mg et 0,5 mg, ou parfois entre 5 et 5,2, il peut y avoir des drames.
Ils disent même pas 0,5, ils disent 0,5. Donc, il suffit que tu n'entendes pas.
0,5.
Il suffit que tu n'entendes pas le point. Voilà, donc ça m'est jamais arrivé heureusement, mais au début, je peux dire que je tendais bien l'oreille.
Oh, 0,5, mais tu dis, oh là là, si t'entends pas le point avant, mais ouais, la cata, quoi. Oh, ouais, on se bat comme ça. Enfin, moi, c'est un de mes combats au quotidien aussi, mais c'est vraiment de se battre contre ces prescriptions orales pour avoir quelque chose d'écrit, que ça soit un SMS, que ça soit un mail, que ça soit ou quelqu'un qui se déplace et qui l'écrive sur une feuille ou dans un dossier informatisé. Mais je vois tout à fait la panique de recevoir que des ordres oraux et d'avoir peur de mal comprendre. C'est pas du tout sécuritaire. Est-ce que en tant qu'expat, tu t'es sentie bien accueillie par tes collègues, ou est-ce qu'il y a un regard sur les étrangers? Comment ça se passe?
Non, sincèrement, dans mon service, dans le premier service où je suis arrivée, j'ai été super bien accueillie. Déjà, j'étais la seule Française, donc c'était marrant, ils étaient contents d'avoir une Française. Je trouve qu'on a une assez bonne image en tant qu'infirmière française. Et non, j'ai vraiment été super bien accueillie, donc aucun problème là-dessus.
Bon, tant mieux, ouais. C'est déjà ça.
C'est rassurant.
Quelle est la vision de l'infirmier en France pour un Québécois? Comment est-ce qu'il voit notre système de santé? Et comment est-ce qu'il voit notre profession? Comment ça se passe pour eux?
J'en ai pas plus discuté que ça, mais en général, j'avais l'impression que qu'ils avaient une bonne image des infirmiers français.
T'as pas eu des réflexions du style encore une infirmière française, je sais pas, un truc horrible, genre elles savent rien faire, ou faut tout leur apprendre?
Non, au contraire, c'était plutôt l'inverse, ils nous trouvent compétents et assez efficaces. Moi, je l'expliquais par le fait qu'on est le double, en France, on a le double de patients que eux, ils ont au Québec. Donc, moi, j'ai plutôt trouvé, qu'ils étaient un peu admiratifs, entre guillemets, et qu'ils étaient contents quand on arrivait dans le service.
Au niveau du système de santé québécois, comment ça se passe? Est-ce que c'est, alors j'imagine que notre système de santé français à côté, ça doit faire rêver, parce que je sais qu'à l'étranger, c'est pas comme ça, mais est-ce que c'est aussi précaire, entre guillemets, qu'aux États-Unis?
Non, alors c'est pas aussi précaire qu'aux États-Unis, et je pense que ce serait un peu un entre-deux entre les États-Unis et la France. C'est-à-dire qu'ils ont normalement tous une sécurité sociale comme nous en France qui prend en charge les soins de santé de base. Mais par contre, pour tout ce qui est soins comme aller chez l'ostéo ou aller chez le dentiste, il faut avoir une assurance privée qui, elle, coûte beaucoup plus cher que nous en France. Et les rendez-vous sont plus longs à avoir, c'est plus compliqué, et puis oui, c'est beaucoup plus cher. Aussi, ce dont il me parlait beaucoup, c'est les médecins traitants. Là-bas, il y en a beaucoup moins qu'en France. Ils appellent ça les médecins de famille. Et en fait, ils s'inscrivent sur une liste d'attente pour avoir un médecin donc qui les suit. Et ils peuvent attendre des années avant d'avoir un médecin traitant. Et donc, en fait, ça fait que les gens se retrouvent à aller aux urgences pour des problèmes de santé bénins parce qu'ils n'ont aucun médecin, il n'y a personne qui peut les prendre. Et la seule solution, c'est d'aller aux urgences. Donc, ça, c'était vraiment le problème dont j'entendais souvent parler. Mais sinon, pour les soins de santé de base, c'est quand même remboursé et pris en charge comme en France.
Est-ce que tu as été amenée souvent à parler anglais ? Est-ce que tu as été obligée d'apprendre à parler anglais ?
Alors non, j'ai pas du tout dû apprendre à parler anglais. Des fois, j'ai dû parler anglais parce qu'il y avait des patients anglophones dans le service, mais bon, je pense comme un peu partout. Mais au Québec, ils sont très fiers de leur langue française, enfin des origines françaises, et ils tiennent vraiment à garder le français comme langue primaire. Ce qui était marrant, c'était justement encore une fois la différence de langage. Des fois, j'avais des patients qui me disaient des expressions québécoises que je comprenais pas du tout. Et du coup, c'était super marrant. Et pareil, moi, des fois, je leur disais quelque chose et ils se marraient. Franchement, il y a des mots, il y a des différences de langage vraiment drôles quand même.
T'as des exemples ? Dis-nous un peu des trucs que t'as entendus.
À l'hôpital, par exemple, un plateau, c'est un cabaret. La jaquette, c'est la blouse. Il y en a un qui m'avait marqué, c'est un landau, c'est un carrosse pour eux.
Quand on voit même qu'à travers la France, il y a déjà des subtilités pour... tu sais, genre le pied à perfusion, le pied sur roulette.
Ah, eux, ils appellent ça la potence.
Ah, pour moi, la potence, c'est plutôt le truc sur le lit pour se remonter dans le lit. Après, on entend un mât à sérum, un pied à perfusion, les systèmes de pousse-seringue aussi, seringue autopoussée ou pousse-seringue. Voilà, déjà rien qu'en France, personne se met d'accord.
C'est vrai, ouais, c'est vrai.
Et alors, du coup, maintenant, de retour en France, pas trop déstabilisé. Alors, même sans parler forcément d'une expérience pro, mais même voilà, sur le plan perso, est-ce que c'est bizarre de revenir dans un pays qu'on connaît bien ?
Oui, c'est sûr que ça fait toujours un petit pincement au cœur. J'ai vraiment adoré mon expérience là-bas. En tant qu'infirmière, je trouve que la qualité au travail est vraiment meilleure qu'en France. Donc, même au niveau du salaire, au niveau des conditions de travail, j'ai trouvé ça vraiment super. Et puis après, la vie d'expatrié, c'est vraiment chouette. Enfin, moi, je conseille à tout le monde de le faire si... L'envie en est, parce que pour moi, c'est une des meilleures expériences que j'ai pu faire. Et puis, bah, justement, j'ai qu'une envie, c'est repartir.
Ah ouais. Est-ce que tu peux nous donner une petite fourchette ou voilà, une idée, une approximation du salaire ? Alors, du coup, peut-être sur un temps plein ou voilà, juste à titre indicatif ?
Alors, moi, donc, j'étais pas en temps plein parce que je faisais un 8-15. Le temps plein, c'est 10-15, 10 jours sur 15. Mais je vais donner mon taux horaire à peu près parce qu'ils reprennent l'ancienneté. Et j'étais à peu près à 33 dollars de l'heure, qui équivaut, faudrait pas que je dise de bêtises, à peut-être à une vingtaine d'euros.
Ok.
Brut, hein. Et puis ensuite, avec ça, j'avais une prime parce que j'étais en réanimation, donc tous les services intensifs, urgence, réa, salle de réveil, on avait une prime qui était quand même pas négligeable. C'était à peu près 300 dollars par quinzaine, donc ça fait 600 dollars par mois. Et voilà,
ah oui.
On avait ça en plus, donc j'avais un bon salaire, je dirais en euros, peut-être entre 2007-2008 par mois.
Ok, ah oui, c'est vraiment différent.
Ouais. Non, oui, ça n'a rien à voir. En gros, on a 3-4 mois d'intégration. Donc, il y a les 10 jours théoriques dont j'ai parlé au début. Ensuite, il y a 30 jours où on est doublé. Et après, il y a encore 30 jours où on est supervisé par une infirmière. Et à la fin de cette période-là, on a une petite évaluation de cas cliniques à donner à une infirmière spécialisée, justement. Donc, voilà, c'est quand même assez long avant de pouvoir être autonome dans le service. Je dirais 3-4 mois, ouais.
Ouais, ouais, à prendre en compte si on veut partir pour une durée pas trop trop longue, voilà, prendre en compte qu'il y a quand même toute cette période-là où on est en formation, quoi.
Exactement. Et puis pareil, les démarches administratives, j'ai été embauchée en mai et j'ai pu partir qu'en mars. Donc ça m'a bien pris une dizaine de mois. Et encore, moi, j'ai fait mon visa à la douane, donc ça a accéléré les choses. Mais il faut être patient, il faut pas être pressé de partir parce que faut bien compter un an entre l'inscription sur le site de Recrutement Santé Québec et l'arrivée au Canada.
Bien, bien penser à ça, puis pas être trop pressé de partir parce que.
Ou alors anticiper.
Ouais, ou bien anticiper, ouais, ça reste de l'administratif, c'est sûr que ça prend des
Ouais.
plombes, hein, c'est toujours comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? Je crois une autre destination de rêve
Voilà,
pour
exactement.
exercer.
Au soleil cette fois-ci, je pense.
Alors, plutôt dans les dom-toms, d'après ce que tu me disais?
Bah oui, vu la crise sanitaire actuelle, j'ai un peu moins de choix, on va dire. Et puis je t'avoue que les démarches administratives, j'en ai un peu marre. Pas compliqué, mais c'est long et puis ça demande ouais, d'être toujours sur ses mails. Enfin bon, bref, voilà. Donc La Réunion ou même Guadeloupe, c'est plus facile.
Ça va te faire un sacré choc thermique.
C'est clair, là, il fait moins 15, moins 17 à Montréal.
Ah, c'est vrai, moins 17.
Hein.
Oh, on a eu moins 4 ou moins 5 à Annecy il y a déjà quelques jours. À chaque fois, je me fais la réflexion, je me dis, mais enfin, t'es pas à plaindre, ma peau, parce que il y a tellement pire.
Ouais.
C'est d'autres conditions, je pense, pour sortir de chez soi. On empile les couches.
C'est ça la technique de l'oignon, on m'a appris.
Ouais, c'est ça, plein de petites couches fines plutôt qu'un gros pull.
Exactement.
Bah, merci beaucoup Clémentine pour tout ça, c'était hyper intéressant. Et on va finir du coup cette petite conversation par un portrait chinois. Donc je vais te poser des questions un peu plus légères ou pas forcément. Et puis donc je te laisse me donner tes réponses du coup en fonction de tout ce qu'on vient de raconter. La première question, si tu avais une baguette magique, quel outil voudrais-tu inventer pour t'aider dans ta pratique?
Alors au Québec, clairement un dossier médical informatisé pour gagner du temps dans la
Ah ouais,
et
c'est vraiment ce
avoir
qui t'a
moins de
manqué.
paperasse. Ouais, clairement.
Ah ouais, c'est frustrant de devoir passer autant de temps sur des dossiers et si peu de temps au chevet du patient,
On a au
j'imagine.
moins 6-7 pages pour chaque patient. Enfin, je trouve que c'est une
Oh là
perte de
là.
temps et c'est pas sécuritaire selon moi. Voilà.
C'est sûr. La phrase que tu as prononcée le plus au quotidien dans ton expérience au Québec?
Bah, écoute, ces derniers temps, c'est pas la phrase que j'ai prononcée le plus, mais c'est la phrase que j'ai le plus entendue, c'est ça va bien aller. En fait, ils ont créé ce slogan pour, on va dire, rassurer la population. Donc, c'était ça va bien aller avec un petit arc-en-ciel au-dessus. Et en fait, on le voyait partout, devant les maisons, enfin, sur les vitrines des magasins, à l'hôpital, sur les télés. Enfin, voilà, c'était le slogan qu'on entendait tout le temps depuis que le Covid existe.
C'est adorable
Ouais,
comme
bah,
slogan en plus.
c'est pour un peu réchauffer les cœurs, on va dire.
Ouais, c'est ça, et nous, pendant ce temps-là, on a tous anti-Covid. C'est vachement moins sexy quand même
Oui, c'est
comme approche.
ça.
Question suivante, si tu étais un médicament.
Le médicament qu'on donnait beaucoup en réa, ce serait la noradrénaline, ce médicament qui permet de maintenir des belles pressions chez nos patients. Voilà, et puis oui, c'est ça, c'est le médicament qu'on utilisait beaucoup, beaucoup, donc c'est le premier qui me vient.
Question suivante, plutôt thé ou café?
Café, j'en bois beaucoup trop.
Puis là-bas, ils ont la culture du café comme chez nous, c'est tout pareil.
Bah, eux, c'est les cafés XXL, hein, version américain. Hein.
Ah oui,
Un petit
d'accord.
café, t'as un truc de 500 millilitres.
Petit expresso, là, ils connaissent pas, quoi.
Non.
Ensuite, plutôt Crocs ou basket?
Et ben, c'est basket maintenant. J'étais team Crocs pendant longtemps, mais maintenant team basket.
Question suivante, plutôt 10 ans dans le même service ou 10 services en un an, mais je pense qu'on a eu la réponse.
10 services. Non, non,
L'envie de faire le tour du globe, plutôt.
dans 10 pays différents.
Et la dernière question, si tu n'avais pas exercé ce métier, vers quelles études ou vers quel métier te serais-tu orientée?
Je pense que j'aurais fait une école de sage-femme et je réfléchis d'ailleurs à tenter peut-être un concours passerelle pour faire ce métier-là plus tard.
C'est vrai?
Ouais, ça me tenterait bien.
Ah ouais?
Ouais.
En France ou dans un pays
Bah en
étranger?
fait, en France, on peut pas parce que si, il faut passer par médecine.
Ok. Ah oui, tu serais de toute façon obligé de repasser par médecine.
Il y a une passerelle, mais il y a une place par région. C'est assez compliqué de l'avoir, mais en Suisse. Il y a une passerelle qui existe et vu que moi je suis d'Annecy à la base, ça me permettrait de revenir un peu dans le coin.
J'en profite pour passer un appel à témoins. Mais s'il y a quelqu'un qui nous écoute, parce que ça m'intéresserait beaucoup d'évoquer le sujet dans le podcast, et s'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui était infirmier de base et qui a fait la formation de sage-femme en Suisse, et qu'il ou elle a envie de parler à mon micro, je serais ravie de l'accueillir parce que je crois qu'il y a plein de choses à dire. S'il y a des personnes qui écoutent ce podcast et qui ont davantage de questions sur voilà, une expérience outre-Atlantique au Québec, Clémentine vous laisse avec plaisir son contact. Je vous mets son compte Instagram en description de cet épisode. Voilà, merci Clémentine, du coup, si tu peux aider des personnes qui ont peut-être des questions plus pratiques ou pour rentrer davantage dans le détail des démarches administratives, c'est très sympa d'accepter de fournir ton aide. Et je te remercie pour cette conversation, c'était hyper agréable.
Pas de problème, merci à toi.
Et puis je te souhaite plein de voyages, plein d'avions, plein d'expériences à l'étranger, parce que je crois que c'est ce qui te botte.
Ça, pour le moment, j'ai bien envie de bouger.
Merci beaucoup Clémentine, à bientôt.
Merci
beaucoup à Clémentine pour son partage d'expérience. J'adorerais continuer ce tour du monde des soignants. Alors si vous pensez que votre témoignage a sa place ici, n'hésitez pas à me contacter par mail. L'adresse est notée dans la description de chaque épisode. Je vous dis à très bientôt.